Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Deep Impact, votre podcast tennis. Je suis Anne Boyer, journaliste de la rédaction d'Eurosport et nous sommes aujourd'hui en petit comité, mais avec notre atout principal, j'ai nommé Arnaud Di Pasquale. Salut Arnaud.
Salut Anne, salut Maxime.
Il est notre rookie à nous, notre super remplaçant, mais bien plus que ça seulement. Et il a le mérite d'être là aujourd'hui, lui. Salut Maxime Battistella.
Oui, oui, je vais pas dégoiser sur les autres, mais voilà, je suis là, moi.
Oh là
meilleur,
là,
comme on dit.
Bravo Maxime, ça commence fort.
Ça commence fort, il y en a qui vont avoir les oreilles qui sifflent peut-être. La saison sur gazon bat son plein, vous le savez, et a déjà livré son lot de surprises et de beaux points. Wimbledon démarre dans moins d'une semaine et l'on a plein de choses à dire à l'approche du troisième grand chelem de l'année. Novak Djokovic en sera l'immense favori chez les messieurs, même si le numéro 1 mondial et récent vainqueur du Queens, Carlos Alcaraz, aura des atouts à faire valoir. Peut-il y avoir d'autres surprises? Nous nous pencherons sur la question. Carlos Alcaraz fait justement l'objet de la stat de notre partenaire Constance du compte Twitter Jeux 7 et Maths. Mais si chez les messieurs le favori est clairement identifié, chez les dames le tournoi s'annonce ouvert et passionnant, plus alléchant que le tableau masculin, ce sera notre débat du jour. Sans oublier une drôle de malédiction à Halleux et l'œil de Deep pour compléter ce beau programme. Je vous rappelle que ce podcast est à retrouver sur toutes les bonnes plateformes d'écoute, Spotify, Deezer, Acast, Apple Podcast. Abonnez-vous, n'hésitez pas à nous laisser un commentaire et vous retrouverez sur eurosport.fr des extraits vidéo de cette émission. La joueuse et les joueurs sont prêts. Deep Impact, c'est parti. Et on va commencer, messieurs, par une petite anecdote plaisante qui porte sur le tournoi de Halleux et sur Wimbledon, puisque c'est le thème de notre émission. Cette petite malédiction, elle concerne Roger Federer. A-t-il jeté un sort sur ce tournoi de Halleux qu'il a si souvent remporté et sur celui de Wimbledon juste après? C'est une plaisanterie, mais les données qui ressortent sont étonnantes. À l'exception de la légende suisse, les joueurs qui ont remporté le tournoi de tennis de Halleux depuis 2011 ont tous été éliminés dans la foulée dès le premier tour à Wimbledon, une curieuse coïncidence qui dure depuis des années donc, et dont Hubert Hurkacz a été la dernière victime l'an dernier. Parmi ses victimes donc, en 2011, Philippe Kohlschreiber, Tommy Haas, Florian Mayer, Borna Coric, Hugo Humbert en 2021, et donc Hubert Hurkacz en 2022. C'est vrai que c'est pas banal, c'est deux tournois qui s'enchaînent. On sait que la saison sur gazon est courte, mais passer d'une performance sur un ATP 500 quand même à une chute dès le premier tour, c'est étonnant.
Ça nous inspire qu'en effet, c'est toujours dur d'enchaîner. Maintenant, moi, c'est plutôt surprenant quand même qu'inspirant, parce que logiquement, tu arrives quand même avec un max de confiance. Enfin, sur gazon, on sait très bien qu'il y a plein d'automatismes à mettre en place, que tu passes de la terre battue au gazon, c'est pas simple vraiment en termes d'ajustement, en termes de déplacement notamment, et les séquences de jeu sont beaucoup plus courtes normalement. Je dis bien normalement, parce que je vois déjà Maxime me dire « Attention, ce n'est pas le même gazon qu'à l'époque. »
Voilà, ce n'est plus la même chose.
Mais quand même.
On connaît trop bien.
Mais on est quand même dans des schémas. On est quand même dans des schémas raccourcis, avec des balles qui rebondissent moins, avec un temps d'adaptation. Et donc, si tu arrives normalement à gagner quelques matchs, tu arrives quand même dans de bonnes dispositions. Et par conséquent, à Wimbledon, tu dois plutôt avoir le vent dans le dos. Sauf que là, apparemment, c'est l'inverse. Et c'est marrant de parler de malédiction parce qu'il y a un peu de ça, en fait. C'est exactement ça, c'est marrant. Mais oui, alors après, donc là, ça serait pour qui, normalement, le sort?
Eh bien, pour Ernest, pour Bublik.
Ah, le pauvre.
Pas Gulbis.
Oui, non, j'allais dire Gulbis.
Ça fait longtemps qu'il est...
Ouais, qu'il est maudit aussi.
Je suis embêté parce que Bublik... Parmi
ah, il a une bonne tête de victime.
On a envie de le mettre dans les fous capables de produire du très très bon tennis et sur Wimbledon aussi. Bon, bah voilà, tant pis pour lui. Donc, si j'ai bien compris, c'est foutu.
Non, j'espère pas pour lui parce que j'ai fait un papier sur l'animal, parce qu'il est quand même assez fantasque et étrange, Alexander Glick, qui est publié aujourd'hui sur le site et que je vous invite à lire. Je fais mon autopromo. Parce que c'est un régal de voir ce joueur sur gazon. On l'a vu à Halle la semaine dernière. Ça, il alterne coups foudroyants et petits jeux au filet, amortis, tweener, service à la cuillère. Donc c'est un petit régal de le voir sur gazon. Et là, en fait, le jeu parfait pour cette surface, qui est une surface très technique et où faut être capable de passer sous la balle, être capable, voilà, de savoir jouer un peu avec l'adversaire et ses nerfs. Donc Bublik est très bien pour ça. Donc j'espère pour lui qu'il ne va pas être la dernière victime de cette malédiction qui est, on ne peut plus, illogique. Je suis d'accord avec Arnaud, hein. C'est quand même assez fou de voir tous ces joueurs qui ont gagné le tournoi et qui s'inclinent au premier tour de Wimbledon ensuite. Maintenant, je mettrai deux bémols et Arnaud m'a déjà vu venir. Halle, c'est plus rapide, c'est un gazon plus rapide que Wimbledon et le Queen's. Et d'ailleurs plus usé. Il se rapproche un peu plus du gazon à l'ancienne. C'est pas le gazon à l'ancienne de Wimbledon, hein, mais il se rapproche un peu plus de ce gazon-là. Et c'est un gazon qui met tout de suite plus en valeur les qualités offensives. Et d'ailleurs, tous ces joueurs que tu as cités, les Humbert, les Haas, les Kohlschreiber, ce sont pas des joueurs qui étaient forcément des métronomes du fond, mais des joueurs assez offensifs. Alors quand ils arrivent à Wimbledon et sur un schéma au meilleur des 5-7, c'est tout de suite différent. Et puis, il faut bien dire ce qui est, à part Roger Federer, ce ne sont pas des légendes,
Non.
ce ne sont pas des champions extraordinaires qui ont fait pendant de nombreuses années top 10 ou qui ont eu des performances en Grand Chelem extraordinaires. Donc, de ce point de vue-là, il y a aussi la surprise est réelle, mais elle est atténuée.
Ce sont pas des légendes, mais on a quand même quelques jolis noms
Oui,
qui
As,
sortent
par
du
exemple,
chapeau.
Tommy Haas,
Tu vois?
numéro 2 mondial, bien
Et
sûr.
dire qu'il fait first derrière, c'est quand même assez
Non,
dur. Ouais.
c'est sûr, c'est sûr.
Oui,
Non,
puis
mais
c'est des
les...
joueurs qui sont réguliers surtout,
je,
quand
je,
même.
je,
Quand même.
je, je tends à atténuer, mais la surprise est assez extraordinaire à chaque fois, enfin, de voir
Après,
que le...
Bublik, après, enfin, pour rester sur lui, je trouve que tu as raison, sur gazon, il a toutes les qualités pour rentrer dans la tête de ses adversaires. Et en plus, il a le jeu, enfin, pour bien jouer sur cette surface, parce qu'il varie énormément, et il a la qualité de service s'il ne fait
Surtout,
pas
en effet.
quatre doubles de suite. Mais
c'est un peu ça passe ou ça casse quand même
c'est
son
ça,
jeu.
c'est
C'est vrai.
ça, mais tout dépend vraiment de lui, quoi. Alors de lui, je ne sais pas si c'est de ses sensations, de la dimension mentale, de la manière dont il se lève le matin, je ne sais pas, on ne sait pas. Mais c'est aussi ce qui fait son charme, c'est aussi pour... Enfin, il commence à être adoré, hein, ce joueur.
Oui.
C'est un peu le remplaçant de Kyrgios quand même, d'une
C'est
certaine
ça,
manière.
c'est ça. Est-ce qu'il va pouvoir faire la même chose que Kyrgios l'an dernier? C'est tout le mal qu'on lui souhaite. En tout cas, il a beaucoup d'atouts et surtout, même s'il est, on va le dire, il est fou, il a quand même un peu l'air de rien gagné en constance. Ça fait 3 années de suite qu'il finit dans le top 50. Là, c'est son deuxième titre en carrière, après le titre à Montpellier l'année dernière. Donc, il y a une progression qui est réelle. Il a déjà fait 8 finales sur le circuit. Je pense qu'il est sur la bonne voie. Alors, jusqu'où, je ne sais pas. Seul lui le sait peut-être. Mais il a affirmé ces dernières années qu'il voulait être top 20, voire top 10. Que c'était un objectif pour lui. Donc, il n'est pas là que pour amuser la galerie, comme parfois. On peut le penser en le voyant jouer, malheureusement. Mais là, sur ces dernières semaines, il était pas très performant. Et là, il y a un vrai rebond à Halle. Et puis surtout, Wimbledon, c'est son meilleur grand chelem. Alors, même s'il a jamais atteint la seconde semaine, il reste sur deux troisième tours à Wimbledon. Donc, je pense que c'est l'année, en tout cas, pour lui, pour atteindre cette fameuse seconde semaine, s'il a un bon tableau, sachant qu'il est tête de série. Et ça, c'est très important pour pouvoir progresser, en tout cas dans les premiers tours, plus facilement.
Bah, on lui souhaite déjà de passer ce premier tour et de vaincre la malédiction de Roger Federer, Alexander Bublik donc, et non pas Ernest. On reste à Wimbledon, Novak Djokovic est le grand favori qui pourra le stopper, le Serbe. La question mérite d'être posée puisqu'il Il semble assez inarrêtable, vainqueur des deux premiers grands chelems à l'Open d'Australie à Roland-Garros, désormais détenteur du record de nombre de titres en grand chelem. Il a de grandes chances de ne pas s'arrêter en si bon chemin. Il est favori, comme les années précédentes, hein, puisqu'il a remporté les quatre dernières éditions, titré 7 fois en Angleterre. Il pourrait l'être une 8e fois et égaler ainsi un certain Roger Federer. Face à lui, messieurs, comme à Roland-Garros, le numéro un mondial et récent vainqueur du Queen's, Carlos Alcaraz, fait figure de concurrent le plus sérieux. Avant de se pencher sur cette concurrence de Novak Djokovic, on va eh bien, s'intéresser à Carlos Alcaraz, qui fait l'objet de notre stat du jour, la stat de jeu 7 et mat. Il est devenu quatrième plus jeune joueur depuis le début de l'ère Open à avoir réussi à remporter au moins un tournoi sur chaque surface au cours d'une seule et même saison, donc sur dur à Indian Wells, sur terre battue Buenos Aires, Barcelone et Madrid, et donc sur gazon, une grande première à 20 ans et un mois au Queens la semaine dernière. Et donc, il figure parmi les plus jeunes avec Björn Borg, qui avait 17 ans et 11 mois quand il a remporté les trois surfaces au cours d'une même saison. Pardon?
Faramineux, 17 ans,
17 ans, ouais,
incroyable.
C'est assez impressionnant. Mats Wilander, qui avait 19 ans et 3 mois en 1983, et Jimmy Connors, 19 ans et 11 mois, donc pas des petits noms du tennis, hein, évidemment. Donc il continue d'accoler son nom à des statistiques de précocité sur la planète tennis. Mais mis à part lui, et c'est notre question du jour, qui peut s'inviter dans la course au titre cette année, qui peut être la sensation de cette édition 2023 et peut-être éviter ce que l'on attend, hein, une finale Djokovic-Alcaraz, qui peut être le Kyrgios version 2023 selon vous?
Donc là, on ne part pas sur l'éloge d'Alcaraz, hein, on est d'accord. On part sur qui
Non.
peut-être battre, hein, pas simplement rivaliser, parce qu'on parle de victoire, donc Djokovic et Alcaraz, on les met ensemble comme les
Voilà.
plus grands favoris. Ok, très bien, super thème, excellent. Bah écoutez, donc il n'y a pas de joker possible. Y a pas de
joker possible. Ça va être assez rapide.
C'est super. Non, 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 mais après, vous savez quoi, je suis allé regarder un petit peu comme ça le classement. Je me suis penché sur ceux que j'imaginais pouvoir bousculer, en effet, Djoko, principalement Djoko, hein, Alcaraz, je pense qu'il peut flancher, c'est différent. Je pense qu'on ne peut pas les mettre au même niveau sur cette surface et à Wimbledon. Mais qui, alors, malheureusement, je sais pas, malheureusement, c'est difficile parce que même quand j'avance les noms, j'y crois pas beaucoup. Donc, je ne vais pas pouvoir bien le vendre. Hein, okay, le teaser, il n'est pas bon, je vous le dis tout de suite. Mais des joueurs qui, comme ça, de manière exceptionnelle, avec des fulgurances, pourraient bien joué, il y a qui? Il y a Sinner, il y a Fritz, il y a Hurkacz, on a parlé de Bublik, il y en a peut-être d'autres là comme ça, mais alors je me posais la question hors antenne avec Anne, on parlait de Félix au GLSI, mais est-ce qu'il va jouer Félix ou il ne va pas jouer?
Il n'a pas joué en préparation en tout
ça,
cas.
Ça c'est sûr, donc point d'interrogation, mais typiquement sur gazon ça aurait pu être un bon outsider, mais est-ce que c'est suffisamment costaud, solide, régulier sur un gazon? Mon cher Maxime, qui en plus a été très ralenti, donc ça joue énormément, hein, ça, évidemment.
Oui.
Donc, face à ces grands serveurs, ces grands attaquants, parce que finalement, c'est ce qu'on cherche un petit peu. Et c'est peut-être pas forcément ceux-là qui vont tirer leur épingle du jeu. En fait, il est là un petit peu le piège, je trouve, en ce moment. Ou alors, moi, en tout cas, quand je me fais un petit peu la liste, je me dis, tiens, voilà, sur gazon, ceux qui jouent en deux, trois échanges, qui servent évidemment très bien, qui vont être capables de bien bouger, de bien contrer, mais en fait, je ne sais même pas si c'est dans cette liste qu'il faut aller regarder, parce qu'on sait très bien que si tu passes tes premiers tours avec un gazon peut-être un peu plus rapide, après, en revanche, vu le gazon usé, bah, il l'est peut-être beaucoup moins encore, et tu peux vraiment jouer du fond. Donc, je réviserai peut-être ma copie la semaine prochaine, Anne, mais là, non, mais sur des joueurs comme ça, des Sinner, des Fritz, est-ce qu'un Norrie sur, je sais pas, sublimé un peu à Wimbledon pourrait aussi...
Elle avait fait demi-finale l'an dernier, hein.
Ouais, ouais.
Après, ouais, bon, encore une fois, attention, la question, c'est pas de faire un quart ou une demi. Donc, non, mais c'est toujours ça l'objet. C'est à chaque fois difficile. Parce que là, dans ceux que je viens de citer, j'espère bien quand même qu'il y en aura un ou deux en seconde semaine, en quart de finale et peut-être même en demi. Mais après, c'est pour ça que je disais, j'ai du mal à y croire, je ne sais pas toi, Maxime, mais de là à battre un Djokovic aujourd'hui, c'est difficile de se projeter, de se dire que c'est possible.
Ah, moi,
Et d'un Djokovic en pleine confiance, parce qu'on avait parlé de cet affrontement Alcaraz-Djokovic sur terre battue, on l'attendait. Bon, ça a fait un petit peu flop à cause des limites physiques de Carlos Alcaraz, mais là, l'Espagnol, en plus, a quand même peu de références sur gazon face à un joueur qui est en énorme confiance à Wimbledon et en plus en ce moment. Donc c'est encore plus difficile d'imaginer quelqu'un venir l'embêter. Alors qu'à Roland-Garros, on pouvait avoir des motifs d'espoir sur l'intérêt du tournoi ou en tout cas la rivalité. Ça l'est beaucoup moins à Wimbledon. Alors peut-être que du coup, il y aura plus de surprises, mais.
Et ce qui est encore plus fascinant pour le cas de Djokovic, c'est que il a l'habitude de venir à Wimbledon sans préparation. C'est-à-dire qu'il n'a pas de tournoi, il ne fait pas de tournoi pour s'échauffer sur gazon avant de venir à Wimbledon. Et c'est une habitude pour lui, ça lui est arrivé une dizaine de fois déjà. Et la plupart de ses titres, 6 fois sur 7, il me semble, 6 titres sur 7, il est arrivé comme ça sur gazon, comme
Bah
ça à
son premier titre sur gazon, c'est Wimbledon.
Voilà.
Il n'en avait
Donc,
jamais gagné avant.
il a l'impression qu'il n'a même pas besoin de repères presque, il les trouve tout de suite, ou alors il les trouve en première semaine de Wimbledon. Voilà, c'est, donc, il a une espèce d'ascendant psychologique absolu sur la concurrence, à tel point qu'Alcaraz lui-même, quand on lui a posé la question après sa victoire au Queen's de savoir si ce statut de tête de série numéro 1, parce qu'il sera tête de série numéro 1 Alcaraz à Wimbledon, changeait quelque chose sur ses chance de victoire, il a répondu, ça me donne plus de confiance à moi, ça c'est sûr, mais Novak arrive. Donc il a dit, mais Novak arrive. Donc c'est dire à quel point Djokovic mange le cerveau de ses adversaires, de la concurrence, et encore plus d'Alcaraz depuis cette fameuse demi-finale de Wimbledon. Mais j'ai envie de prendre le problème à l'envers. On parlait de qui peut empêcher une finale Djokovic-Alcaraz. Donc on va plutôt aller sur le côté Alcaraz, qui peut battre plutôt
Oui.
Alcaraz. Et là, de ce côté-là, il y a plus de possibilités. Et il y a un nom que Arnaud n'a pas cité, et je le remercie, c'est Francis Tiafoe. Moi, je me dis qu'un Francis Tiafoe en feu, en mode US Open de l'an dernier, quand il fait demi-finale, il a vraiment, vraiment une belle carte à jouer à Wimbledon. Il vient de gagner son premier tournoi sur gazon à Stuttgart. Il a le tennis explosif, le tennis pour briller. Il a une super main, il a un super service quand il veut, j'ai envie de dire. En tout cas, une super première balle. Donc, je pense que Tiafoe, c'est un peu le même, enfin, un profil. C'est pas le même exactement, mais un profil à la Kyrgios de l'an passé, en effet. On en parlait. Et je pense qu'il peut, que si les sensations sont là, s'il est de bonne humeur, s'il a un bon tableau, il peut aller loin. Mais voilà, il n'y en a pas 36, c'est sûr. Un type comme Zverev, moi j'aurais bien aimé aussi, j'aimerais bien le voir performer, mais il a un complexe sur gazon. Il se dit trop grand pour la surface. Alors, Boris Becker en a parlé récemment et a dit qu'il ne comprenait pas pourquoi il disait ça, parce qu'il y avait tellement de géants
Ah bah oui.
qui avaient réussi sur gazon, Ivan Isevich, Raonic récemment. Donc, ce n'était pas un argument, mais je pense que Zverev est un peu craintif au niveau de ses appuis, ce qu'on peut comprendre avec ce qui s'est passé l'an dernier à Roland-Garros au niveau de sa cheville. Et puis surtout, le petit jeu, il n'est pas très à l'aise, les petites amorties comme ça. Bublik l'a rendu fou à Halle en demi-finale la semaine dernière. Donc, voilà. Mais je pense que, en termes de profil, Zverev a un profil qui, s'il était un peu plus confiant sur la surface, ferait. Il serait pas facile, en tout cas, à jouer à Wimbledon, mais c'est très très difficile, en effet, de ne pas voir Djokovic en finale. S'il faut aller chercher une surprise, ce serait plutôt peut-être du côté d'Alcaraz. Et encore, il nous a quand même sacrément impressionnés au Queen's.
Et un Tsitsipas, par exemple,
Tsitsipas,
il a
c'est
aussi
très.
un jeu qui peut
Tsitsipas,
bien fonctionner sur gazon.
c'est très compliqué. Il a un jeu. Il a tous les atouts quasiment pour bien jouer sur gazon, à part son petit slicer vert, qui est encore insuffisant pour moi, même s'il avait progressé en fin d'année dernière notamment. J'ai l'impression qu'il restagne un peu à ce niveau-là et qu'il a pas assez travaillé cette année. En tout cas, il est pas aussi performant qu'il devrait l'être pour un joueur avec un tel revers à une main. Donc, de ce point de vue-là, il y a un petit problème. Et puis, a-t-il totalement. La tête au tennis en ce moment, est-ce que les soubresauts dans son entourage, et notamment la perte de Philippe Poussis, enfin, qu'il a lui-même mis à l'écart, hein, c'est son choix, hein, est fondamentalement une bonne idée? J'en doute un peu. Et puis, il ne faut pas oublier que Tsitsipas n'a jamais dépassé les huitièmes de finale à Wimbledon. L'année dernière, c'était plus prometteur, hein. Il avait gagné à Majorque avant Wimbledon et il avait fait un sacré troisième tour contre Kyrgios. Et je pense que s'il n'avait pas eu ce tirage-là, il serait allé en seconde semaine l'année dernière. Cette année, encore une fois, il a des problèmes. Il a du mal à s'adapter au gazon. Et il a perdu contre Jarry à Halle. Il a perdu contre Gasquet à Stuttgart. Donc,
Pour le
c'est pas
600e.
exactement pour la 600e victoire de notre échi national. Donc, non, il a des difficultés sur cette surface. J'ai l'impression que lui aussi fait un complexe, alors que pour le coup, techniquement, à part ce slice dont je parlais, il a quand même un jeu pour performer, notamment à la volée. Je sais
Mais je
pas.
sais pas si en qualité de retour aussi,
Ouais, ça c'est
parce
vrai.
qu'en fait, il
Ouais,
faut
c'est
un
vrai.
vrai en
C'est vrai.
revers, notamment hein, côté revers, tu vois, à un moment, il faut réussir à bloquer, à bien bloquer tout le temps, réussir quand même à jouer dans les pieds. En passant par en dessous, en étant trop loin de sa ligne, tu vois. Et c'est pareil, quand tu parlais de Zverev, je pense aussi à ça. Même si Zverev, on l'a vu à Roland, mais c'est sur Terre, c'est très différent. Prendre vraiment des initiatives, jouer de plus en plus tôt, et notamment sur les deuxièmes balles de ses adversaires. Mais là, c'est vraiment un rebond différent. Tu peux te retrouver avec des balles au corps. Faut être rapide, faut une agilité, faut une explosivité que peut-être certains joueurs n'ont pas. Et c'est pour ça que les grands peuvent avoir du mal. On pourrait à tort parfois se dire, ah mais t'es grand, tu joues bien sur gazon, ah, mais il n'y a pas que le service aujourd'hui. Et justement, c'est tout l'enjeu, c'est réussir à bien se déplacer. On en parle beaucoup, le déplacement sur cette surface, il est capital. Et un Tsitsipas sur dur qui se déplace plutôt bien, attention. Hein. Mais je trouve que côté revers notamment, et en retour, ça, c'est pas encore. Enfin, il est perfectible, on le sait, et on en parle souvent. Et là, sur cette surface, peut-être que ça creuse un petit peu plus encore l'écart.
Ouais, c'est sûr. Il y en a un autre dont on n'a pas parlé. Enfin, il y en a plusieurs dont on n'a pas parlé, mais Medvedev peut être quelqu'un qui, s'il prend confiance,
Et puis dans le rapport à l'adversaire aussi. C'est-à-dire que
voilà,
lui, il n'a pas ce
exactement.
complexe face à Djokovic, peut-être de
Moi, en tout cas,
d'infériorité, il a moins
moi, en tout
peur
cas,
de le battre.
exactement. Et puis,
Et
je
c'est
pense que
pareil, il n'a
c'est,
pas dépassé les huitièmes à
il n'a
Wimbledon,
pas
lui.
dépassé les huitièmes, mais lui, j'ai envie de dire, c'est encore plus surprenant. Pourquoi c'est encore plus surprenant? Parce qu'il a un tennis qui joue beaucoup sur les trajectoires rasantes. Or, le gazon, c'est parfait pour ça, les trajectoires rasantes, jouer sur les courts croisés, jouer avec un service canon, il a ça. Il est très très bon retour. Alors certes, comme Arnaud le dit, il retourne de très très loin, et sur gazon, peut-être éviter de retourner de si loin, mais bon, il a quand même une qualité de retour qui est bien supérieure à celle de Tsitsipas, dont on parlait tout à l'heure. Donc, c'est assez surprenant, pour le coup, que Medvedev ait pas fait mieux que ce qu'il a fait, que ses résultats dont tu parlais, Anne, ces dernières années. Maintenant, est-ce
Après,
que
il n'a
c'est...
pas participé aux deux dernières éditions. Il y en
Voilà, il
avait
a...
une avant où il n'avait pas participé. Ce n'est pas le grand chelem auquel il est plus présent.
Exactement, et donc c'est peut-être pour cette année. Il n'a pas fait une préparation grandiose, mais c'est pas
Non.
si important. Mais c'est pas si important. C'est un autre format, c'est un autre tournoi. Je pense qu'il est capable, mais il faut qu'il prenne confiance au fur et à mesure des tours. C'est très important pour lui d'avoir une espèce de montée en puissance. Et j'ai envie de dire, un type comme Runeus, c'est pareil, hein, même en plus
Oui,
jeune. Mais c'est-à-dire
plus il
qu'il a,
avancera, plus il sera
plus il
dangereux.
avancera, plus il sera dangereux. Il a un tel tennis, il a un tennis si ancré qu'en seconde semaine sur un gazon usé, donc parler Arnaud, où les échanges seront de plus en plus longs, il sera très dangereux s'il passe cette première semaine.
Après, vraiment, et pour enfin, je sais pas si c'est Anne qui pilote, mais pour finir
Oui.
sur ce thème. Pour battre Djoko ou Alcaraz plus tôt, comme tu le dis, Maxime, il faut quand même, quoi qu'il arrive, des joueurs qui puissent être en feu à un moment donné.
Oui.
Et tu vois, quand tu parles de joueurs très constants, c'est presque pas cela non plus, finalement. Il faut pas que ce soit trop constant. Il faut aller sortir de sa zone un petit peu, justement, pour aller faire le match, le match enfin, je sais pas, de la quinzaine, du jour d'ailleurs. Donc, quand tu parles de Tiafoe, évidemment, c'est
Voilà.
possible.
C'est
Quand
pour
tu
ça que
parles.
c'est lui qui me
Bien
vient le plus
sûr,
à
mais
l'esprit.
un Sinner, moi je pense qu'il est capable de le faire aussi sur un match. Il est capable, tu vois.
Ouais,
Je
oui.
pense que
Mentalement, faut voir.
Ben,
voit.
Berrettini,
Je
hein,
dis
qui
pas
est
le
déjà allé
contraire.
loin,
Ouais.
son
Je dis
meilleur
pas le
aussi
contraire.
à
Je
cette
pense qu'il a le
capacité.
tennis, comme tu le dis, très très bien. Et puis on a vu à
Il a
l'US
juste le dos
Open,
dans le bras, il peut y aller,
on a
quoi.
vu à l'US Open contre Alcaraz, on
Mais
a vu l'an
le
dernier
moment
contre
important.
Djokovic aussi, hein. Mais au moment de conclure,
C'est
c'est
fragile, c'est
ouais.
friable en effet. Mais tu vois, ce sont ces joueurs-là qui pourraient en tout cas vraiment
Je
leur
m'inquiète,
poser des problèmes.
petite parenthèse, je m'inquiète un peu pour Sinner qui a abandonné à Halle. Et je ne sais pas dans quel état physique il sera. Tout comme évidemment, on n'en a pas parlé parce qu'il n'a pas eu de préparation, il n'a pas eu de saison. C'est Nick Kyrgios, malheureusement, le finaliste sortant, dont on ne sait pas s'il jouera à
Non, ça,
Wimbledon.
ouais. Ah, je pensais que
Ça
c'était déjà acquis qu'il ne serait pas là.
non, ça, pour l'instant, il n'y a rien d'officiel. Mais c'est très, très, très mal parti et c'est évidemment dommage, vu ce qu'il nous avait montré l'année dernière.
Bon, alors on espère quand même avoir des surprises dans ce tableau masculin, peut-être plutôt du côté du tableau d'Alcaraz que celui de Djokovic, surtout un beau tournoi. Mais on l'a compris, l'issue finale est assez prévisible. Elle l'est moins, messieurs, du côté des dames, et cela fait l'objet de notre débat du jour. Après un très beau Roland-Garros hein, dans le tableau féminin, avec une finale particulièrement spectaculaire, Wimbledon s'annonce aussi assez excitant. On a vu les victoires de Kvitova, notamment d'Ostapenko à Birmingham la semaine dernière, les perfs aussi de Krejcikova, de Donavekic, et puis on n'oublie pas les favorites, Swiatek, Jabeur, qui peuvent aussi très bien figurer. Est-ce que ce tournoi féminin s'annonce plus alléchant que son pendant masculin, un petit peu en réponse à ce qui s'est passé à Roland-Garros pour vous?
Alors, je peux prendre le.
C'est pour toi, Maxime.
C'est pour moi. J'ai participé à l'élaboration de ce débat parce que je dois vous avouer quelque chose. C'est que depuis le début de saison,
C'est ça, c'est surtout depuis le début de saison que c'est un peu le cas.
je suis beaucoup plus intéressé et passionné par ce qui se passe du côté féminin que du côté masculin. C'est dû évidemment au match, au suspense, au manque de suspense parfois côté masculin, mais aussi à l'émergence de rivalités de plus en plus fortes et de plus en plus installées. Tu parlais de Swiatek et Jabeur, parce que Jabeur a fait finaliste l'année dernière. Ne pas oublier évidemment les deux autres membres de ce qu'on a appelé un peu tôt, je pense, le Big Three féminin, c'est-à-dire Aryna Sabalenka et Elena Rybakina, qui est tenante du titre à
Oui, bien
Wimbledon.
sûr.
Donc, rien que ça, rien que cette lutte pour le trône entre les trois, là, c'est quelque chose qui me patiente, qui me passionne, pas patiente. Je suis impatient, en fait. c'est ça que je voulais dire. Il y a un petit bémol là-dessus, c'est que Rybakina, qui a déclaré forfait au troisième tour de Roland-Garros, a aussi déclaré forfait cette semaine à un tournoi et elle s'est fait sortir la semaine dernière assez tôt. Malheureusement, elle a depuis quelques semaines une maladie virale. C'est ça, c'est la cause, c'est une maladie virale. Et donc, j'espère pour elle qu'elle sera en meilleur état pour Wimbledon et qu'elle a déclaré forfait cette semaine plutôt par précaution qu'autre chose. Donc ça, c'est un petit bémol. Mais voilà, tout ça pour dire que c'est une période où il y a beaucoup de rivalités et beaucoup de tennis différents.
Oui.
Rybakina, c'est le service, un service extraordinaire, une capacité à aller vers l'avant et une fluidité, un timing, elle donne l'impression de faire avancer la balle sans effort, qui est fascinant. Sabalenka, c'est un peu la puissance brute, mais elle a montré à Roland-Garros notamment qu'elle avait bien plus d'atouts que ça maintenant dans son jeu, no notamment en termes de qualité de déplacement et même en utilisant parfois un petit slice pour casser le rythme, et ça, j'ai été assez surpris. Et puis, on a des joueuses qui, sur gazon, sont magnifiques. Tu parlais de Kvitova qui vient donc de gagner à Berlin son 31e titre. Elle a gagné deux fois à
Double
Wimbledon.
vainqueur.
Voilà, elle a gagné deux fois à Wimbledon en 2011 et 2014. C'est une gauchère, elle a une puissance extraordinaire, une qualité de frappe incroyable. Il y a aussi celle dont Bertrand Millière est amoureux.
Bon, les deux, là tu sors les deux. Là tu fais une spéciale dédicace à Bertrand parce que Kvitova c'est la même hein, Ouais, c'est
pour
Petra
Bertrand. Je
et
suis forcément.
Carolina.
Oui, mais c'est pas les mêmes. C'est pas les mêmes. On l'a vu en finale de Roland-Garros, toute la variété du jeu de Mourova, cette capacité à aller au filet, à changer de rythme, un petit jeu à la Roger Federer avec un revers à deux mains, certes, c'est vrai. Mais il y a quelque chose comme ça. Il y a de l'inventivité, de la créativité.
Et puis, il y a cette Ostapenko que tu citais là, qui est de retour, comme il y a 6 ans, j'ai envie de dire, quand elle avait gagné à Roland-Garros. Donc, en fait, il y a beaucoup de prétendantes, mais c'est pas un, comment dire, j'allais dire du n'importe quoi, ce qu'on a un
Non,
peu
c'est des
reproché,
prétendantes
voilà,
qui
ce
ont
qu'on a
déjà
un
fait
peu,
leurs preuves.
exactement, ce qu'on a un peu reproché au tennis féminin pendant des années, c'est d'être totalement imprévisible et justement de ne pas avoir de fil conducteur et pas avoir de joueuses auxquelles on pouvait s'identifier. Là, c'est très différent. Je trouve qu'on a une bonne dizaine de joueuses qu'on a envie de suivre et dont on a envie de voir les duels. Et je dois confier que moi, en tout cas, j'ai plus d'attentes sur ce tournoi féminin que sur le tournoi masculin, qui me paraît assez réglé comme du papier à musique. Qu'est-ce que t'en penses, Arnaud?
Alors, je vais te suivre globalement, mais je vais un peu nuancer ton propos quand même. Oui, mais j'ai quand même le sentiment, quand on arrive en Grand Chelem, on retrouve quand même toujours, chez les garçons, donc on a cité Djoko Alcaraz, mais chez les filles, tu parlais d'avoir peut-être annoncé un peu trop tôt ce Big Three, mais Swiatek, Sabalenka, Rybakina, elles sont quand même devant, tu vois ce que je veux dire? Et encore plus en Grand Chelem, parce que c'est à ce moment-là, justement, je crois qu'elles s'affirment encore plus. Et on sait que c'est dans ces moments que les grands champions, les grandes championnes arrivent à élever leur niveau au moment important. Elles sont plus présentes parce que c'est l'objectif et qu'on a beau aujourd'hui débattre des tournois qui préparent les grands chelems, c'est pas la même histoire, c'est pas la même chose. Aujourd'hui, on est là pour marquer, pour écrire l'histoire, pour gagner des grands chelems. Et chez les filles, une Swiatek, je pense que c'est ça. Une Sabalenka, c'est en train de devenir une Rybakina aussi à sa manière. Donc après, en effet, les autres en ont déjà gagné. Tu as cité hein, Kvitova, Krejcikova. Enfin, je veux dire, tout ça, ce sont des grands noms déjà du tennis féminin. Elles ont déjà gagné des grands chelems. Il y en a d'autres. Une Jabeur aussi, peut-être très dangereuse. Donc, tu as raison, il y a des styles très variés. Donc, c'est ce qui rend le tennis féminin aujourd'hui très intéressant parce qu'il y a des oppositions de styles
Exactement.
qu'on a envie d'aller voir. Et ça, c'est génial. Ouais, quand tu mets Sabalenka face à une Jabeur, tu as envie de regarder ce match, voir comment Jabeur va réussir justement à déstabiliser un petit peu Sabalenka, qui va essayer de passer en puissance constamment. C'est génial. Donc tout ça, c'est vrai, je comprends. Après, j'ai l'impression quand même que tu en as deux, trois qui sortent quand même encore du lot. L'écart est peut-être un peu réduit. Voilà. Et
Oui.
donc, ça laisse plus de place. C'est moins marqué, en effet, que chez les hommes. Tu as raison. Donc il y a plus de place et donc plus de prétendantes, d'outsiders en tout cas. Pour aller peut-être aller chercher ce titre. Mais moi, je vois bien, enfin quand même, enfin tu vois, sur ce genre de tournoi, je sais pas ce que fera Swiatek là sur gazon.
Oui,
C'est toujours difficile, ça,
c'est
quel point
un bel
d'interrogation.
enjeu, ouais,
Ouais,
exactement.
et je pense qu'elle, au fond d'elle, ça serait énorme de pouvoir se prouver qu'elle est capable d'aller gagner sur gazon. Elle l'a montré sur dur, sur terre, on le savait, et maintenant il lui reste ça, c'est un sacré challenge, et elle fait partie de ces champions, hein, qui justement vont vouloir prouver aussi, alors se prouver déjà à elle, parce que quand on sait qu'elle est fan de Nadal, et que Nadal, le premier tournoi qu'il a voulu gagner, c'est Wimbledon et pas Roland quand même. Donc c'est quand même assez marrant comme truc. Donc aujourd'hui, je suis sûr qu'elle a ça en elle, et qu'elle va pouvoir aussi nous surprendre. Moi, j'adorerais ça. En fait, c'est aussi ça que j'ai envie d'aller voir peut-être, de me
Bien
dire
sûr.
que Swiatek, elle n'est peut-être pas attendue, et peut-être qu'elle peut aller gagner, enfin voilà, sur une surface qui n'est pas la sienne. Ça, je trouverais ça génial. Et après, oui, Mourova, enfin, on va arrêter parce qu'il y a Bertrand qui va kiffer encore cette émission si on parle
Il
trop
doit
de
être
tennis.
puni de son absence.
Ouais. Donc, non, mais c'est vrai que. Mais tu as raison, en tout cas, est-ce que c'est, enfin, le tournoi sera plus intéressant que les hommes? J'en sais rien. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on a envie de le suivre et que ça fait du bien et qu'il y a des rivalités qui s'installent avec des belles oppositions et que ça présage, en tout cas, ouais, un super grand chelem.
C'est le paradoxe, c'est-à-dire que souvent ces dernières années, c'était un marronnier de dire que avant un tournoi de Grand Chelem, que c'était imprévisible côté féminin et que c'était ouvert. Mais là, c'est ouvert dans le bon sens, j'ai envie de dire. C'est ouvert parce que on a des championnes identifiées dont on ne sait pas ce que vont donner les rivalités et les affrontements dans les semaines à venir. Si ça se trouve, on se trompe totalement. Évidemment, c'est la glorieuse incertitude du sport qui veut ça. Mais j'ai l'impression que c'est ce qui nous attend et je m'en réjouis.
Et on s'en réjouit tous, on a hâte, surtout qu'on sait que cette saison sur gazon est quand même pas très longue. Donc, il y a beaucoup d'attentes autour de ce tournoi de Wimbledon, parce qu'après, c'est terminé, on va rebasculer sur la saison sur dur. Mais on espère que ce soit du côté masculin ou du côté féminin, qu'en tout cas, on aura de belles batailles. Et ça a plutôt bien commencé dans les tournois de préparation, hein, que ce soit au Queen's, à Halle chez les garçons, à Birmingham, à Berlin chez les filles, ou Kvitova, donc, eh bien. A confirmé qu'elle revenait bien quand même, la Tchèque, cette année, 31e titre quand même en carrière.
Elle
Alors
avait
certes,
gagné
elle
à
a...
Miami. Elle avait
Ouais,
gagné
ouais,
à
ouais.
Miami cette année en finale contre Rybakina. Donc, si elle réussit son
Elle est de
début de
retour dans le top
quinzaine,
10.
ouais, si elle réussit son début de quinzaine, si elle est en deuxième semaine, attention, elle sera très dangereuse, forcément.
Alors, elle a plus atteint les quarts de finale à Wimbledon depuis son titre en 2014, mais on sait qu'elle est passée par des périodes compliquées et qu'elle a eu un petit peu de mal à revenir, mais c'est un beau retour dans le top 10 et c'est ça présage de très belles choses pour Petra Kvitova, qui ne laissera évidemment pas indifférent Bertrand Millard. Alors pour finir, on va parler d'un joueur qui a retenu l'attention d'Arnaud, c'est l'heure de l'œil de Deep.
Ouais, alors pas que mon attention apparemment, mais et j'ai pas pris un jeune joueur, mais un joueur qui a 34 ans, qui est gaucher, qui est français.
C'est très jeune, 34 ans.
Et c'est aujourd'hui, c'est vrai.
Oui.
C'est mon âge, c'est mon âge. Alors, je vous en
C'est
prie.
donc très jeune, mais sur le circuit, c'est pas si jeune, Maxime. Même s'il y en a de plus en plus. Et qui s'exprime très bien sur cette surface, c'est Adrian Manarino. Pourquoi il a battu Fritz et Medvedev sur les tournois justement avant d'arriver sur Wimbledon. Donc on sait qu'il est très bon sur cette surface. Après, la question que je me posais d'une manière peut-être un peu plus générale, déjà on est très content pour lui, mais est-ce que au lendemain justement de Roland-Garros, et donc vraiment quand je dis au lendemain c'est juste après, la saison sur gazon commence, est-ce que ça ne détend pas un peu les Français après l'énorme pression subie à Paris, donc à la porte d'Auteuil, de se retrouver juste après, à devoir préparer tout de suite, hein, évidemment, un événement majeur, mais avec peut-être une autre pression, un autre regard. Et c'est vrai que finalement, on a souvent vu hein, les Français briller hein, à Wimbledon hein, par le passé. Alors, et donc là, il y a Adrian, et c'est un petit peu voilà, le lien que je fais avec cette question que je pose de manière un peu plus globale. Mais c'est une vraie question, je trouve,
Oui,
finalement.
je pense que il y a beaucoup de vrai dans ce que tu dis. Et historiquement, en effet, les Français brillent plus à Wimbledon, en tout cas récemment, qu'à Roland. On pense aux demi-finales, aux deux demi-finales de Richard Gasquet à Wimbledon en 2007 et 2015. On pense à Joe Wilfried Tsonga, évidemment, à Wimbledon, qui avait battu Roger Federer en 2011, alors qu'il était mené 2-7 à
7 à
0,
0.
ce qui est quand même un exploit hallucinant à Wimbledon. Oui, les Français réussissent mieux à Wimbledon, mais j'ai l'impression aussi que c'est. Mais là, c'est un autre débat. C'est aussi, c'est en plus de la pression, c'est aussi une question de formation, mais formation à jouer sur une surface. Alors, vous allez me dire, sur herbe, ils ne jouent pas beaucoup,
Non.
certes, mais en fait, le jeu sur herbe et le jeu sur dur indoor est peut-être plus similaire en termes de rythme. Qu'un jeu sur terre battue où il faut construire tactiquement ses points, où il faut utiliser beaucoup plus de lift, tout ça. Donc il y a peut-être une question à se poser là-dessus. Maintenant, pour revenir sur Adrian Manarino, c'est quand même fantastique. Il y a un contraste extraordinaire. Le type ne gagne pas un match sur terre, pas un seul. Il revient sur gazon. Et là, c'est la renaissance. C'est
Le
extraordinaire.
phénix.
C'est un phénix. C'est extraordinaire. Et tout le monde le sait. Il est connu. Manarino sur le circuit, on sait que sur gazon, il embête tout le monde, il a peur de personne, et j'ai l'impression que les cadors, entre guillemets, ou les membres du top 10 ont beau le savoir, eh bien, ils tombent
Il
quand
tombe
même
dans
dans
ses
le piège.
filets.
Ils tombent quand même dans le piège. Le match de Medvedev contre Manarino, alors qu'il mène 1-7-0 et qu'il se fait peu à peu manger le cerveau,
Un cercle Game Bosch.
c'est extraordinaire. Et puis Taylor Fritz aussi, qui tombe dans ce rythme-là, j'ai envie de dire ce faux rythme. Et en même temps, ce serait comment dire, assez injuste pour Manarino, qui est le plus entreprenant, en fait, contre Taylor Fritz. Il fait plus de coups gagnants que Taylor Fritz. Et en fait, il a une prise de balle si précoce sur gazon. Il arrive tellement bien à utiliser les angles et à surprendre en vitesse et en. et en hauteur de balle très basse hein, ses adversaires, que qu'il en devient quelqu'un de très difficile à jouer. Pas oublier non plus que Roger Federer, pour son dernier Wimbledon, avant de perdre en quart de finale sur une jambe, comme on le sait, contre Urquaz, il avait eu un premier tour contre Adrien Manarino absolument extraordinaire, où il était très en danger. Et c'est malheureusement pour Manarino, il avait abandonné au cinquième set, je crois, ou en fin de quatrième, alors qu'il venait de 7 à 1. Donc c'est quelqu'un qui est sur gazon et il a une science du jeu sur gazon qui est extraordinaire. Alors, est-ce qu'il peut être le Français qu'on attend en seconde semaine, Arnaud?
Non, mais attends, il y en a d'autres. Hein. Il y a Arthur Fils qui est quand même en pleine progression, qui va, j'espère, intégrer le top 50 très prochainement. Il est déjà
Qui a une
58,
wildcard?
qui a
Qui a
une
une wildcard?
wildcard. Oui.
Donc voilà, il y a Van Hache aussi. Enfin, ils sont un certain nombre de jeunes là à pousser. Est-ce que ça sera lui? En tout cas, lui, on sait qu'il est capable de très bien jouer voilà, sur cette surface. Et c'était le petit clin d'œil aussi parce qu'il vient de battre quand même deux joueurs qui ont quelques références,
C'est ça,
tout simplement.
le top 10, et c'est peut-être celui, en tout cas, sur cette préparation, qui donne le plus d'assurance côté français.
Donne quelques garanties.
Voilà.
Mais on va voir justement si les Français, là, un peu plus détendus, vont réussir à briller. C'est quand même intéressant. Après, tu parles de la formation. Moi, je pense qu'il y a vraiment ce côté aussi d'être un peu plus relâché, de se dire
Ouais.
au lendemain, enfin,
D'une grosse pression.
d'une période vraiment. Parce que tu te la mets avant la pression. Hein. Tu y penses avant, ce n'est pas évidemment le jour J uniquement. Hein. C'est beaucoup plus
Est-ce que la pression,
général.
elle est aussi au-delà de la pression qu'ils se mettent à eux-mêmes? Est-ce que la pression médiatique anticipée d'un désastre, est-ce que ça joue dans la tête des Français? Est-ce qu'ils se disent, si on paume encore, on va se faire éclater? Tu vois ce que je veux dire? Est-ce qu'il y a ça qui
C'est
pèse, qui
singulier
pèse
ça,
aussi?
c'est
Ouais.
singulier,
Ouais.
chacun réagit à sa manière, mais ouais, c'est possible, c'est possible pour certains, ouais, pour certains. Après, écoute, voilà, maintenant, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que là, Adrien a bien joué, mais c'était bien de le mettre en avant aussi. C'est un joueur qui fait une sacrée carrière malgré tout, qui a été 22e mondial au mieux, qui trace bien sa route, je trouve, hein, depuis bien longtemps. Et ils sont un certain nombre, hein, d'ailleurs, parce qu'évidemment, on attend, hein, inlassablement, la relève, les top 10, les machins, les trucs, mais il y a aussi beaucoup de joueurs qui, quand même, sont très bons dans le top 50 depuis très longtemps, et lui en fait partie. Donc voilà, c'était aussi une façon de le mettre à l'honneur.
Eh bien, c'est un beau mot de la fin. Merci à tous. Deep Impact, c'est fini pour cette semaine. N'hésitez pas à nous noter, à nous laisser un commentaire. Abonnez-vous aussi, bien sûr. Vous recevrez les nouveaux épisodes directement sur votre smartphone. On se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, suivez l'actu sur eurosport.fr, bien sûr, et sur nos antennes. Merci Maxime, merci Arnaud. C'était un plaisir et on se retrouve très vite pour parler tennis, bien sûr.
Merci à vous. Ciao.
Merci Anne et salut à tous.